c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poder.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour,
et à la technique, Simon. Au sommet de cette semaine, nous allons vous parler de l'Argentine, de Paraguay et de la Colombie. Et il y a une visite aussi en Amérique latine. Voilà. Donc, je laisse la parole à Béatrix pour nous parler de l'Argentine.
Oui, il s'agit d'un candidat ultra-libéral qui bouscule la campagne présidentielle. En troisième position dans les sondages avant le scrutin d'octobre prochain, le député Javier Milei promet de supprimer la banque centrale. À Quilmes, dans la banlieue de Buenos Aires, un local est tapissé de grandes lettres jaunes qui transposent un slogan trompiste. Rendons sa grandeur à l'Argentine. Les affiches arborent un regard bilieux, celui de Javier Milei, 52 ans, un économiste ultra-libéral et anti-système en lice pour l'élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2023. La liberté est son leitmotiv. Dans sa logique libertarienne, cela signifie un État réduit à son strict minimum pour laisser place à un marché dont la main invisible organiserait l'économie et la société. On le compare à Donald Trump. Les sondages le donnent à la troisième place. Ses électeurs, pour l'essentiel des hommes, dans la vingtaine ou la trentaine de classes défavorisées, constituent le cœur de cible du candidat et de sa coalition. À rebours de politiques cultivant l'image du père de famille, il revendique son statut de célibataire. Il promet, s'il est élu, de supprimer le ministère des Femmes créé par l'actuel gouvernement. Le candidat, qui considère le changement climatique comme une vaste farce, défend également la liberté du port d'armes. Les déclarations fracassantes de l'économiste ultralibéral ont souvent été accueillies par la moquerie.
Oui, et on peut ajouter que Milei s'inscrit dans une tendance mondiale des dirigeants d'extrême droite avec une très grande présence sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous indique la politologue Lucia Vincent. Et plus loin, elle nous dit aussi que Milei se nourrit de la colère sociale et apporte des réponses simples et faciles à comprendre à des problèmes compliqués. Voilà ce que font parfois les populistes aussi d'extrême droite. Mais il y a un problème aussi en Argentine sur les l'habillement, n'est-ce pas?
Sur les prix fous de l'habillement, oui. Le prix des vêtements et des chaussures a augmenté de 119% sur un an, en mars, si bien qu'une doudoune vaut aussi cher que le loyer mensuel d'un studio. Dans le centre commercial des Galerias Pacifico, des visiteurs scrutent les vitrines, se rendent d'une boutique à l'autre et ne touchent à rien. Une simple veste matelassée à 372 euros, ça fait réfléchir. L'inflation, maladie chronique argentine, marque un record depuis 1991 avec 104% sur un an. Le secteur de l'habillement et de la chaussure fait encore pire, 119% d'augmentation sur un an. Certains prix semblent totalement disproportionnés, à l'instar de celui de la veste matelassée. De quoi alimenter la colère sociale et la défiance envers certaines marques et distributeurs. Dans les quartiers de la classe moyenne, les magasins de seconde main s'enracinent. Un pull ou un pantalon peuvent faire l'objet de cagnottes pour des cadeaux communs aux anniversaires.
Tango d'Argentine. Et nous allons vous parler de Paraguay maintenant, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, de Santiago Peña, qui a été élu président. Les conservateurs restent donc au pouvoir, contrairement au sondage qui annonçait un scrutin serré. Cette économie de 44 ans l'a emporté avec plus de 42% des voix, contre 27% pour son adversaire de gauche, Efraín Alegre. Le Paraguay ne bousculera pas à gauche. Santiago Peña, le candidat du Parti Colorado conservateur, a remporté le dimanche 30 avril l'élection présidentielle. La vague rose, qui, ces cinq dernières années, a vu des alternances du Mexique au Chili, de la Colombie au Brésil, n'a pas atteint le Paraguay. Le Parti Colorado domine la vie politique quasiment sans interruption depuis 76 ans, hormis une parenthèse à gauche, sous Fernando Lugo, entre 2008 et 2012. L'emprise du Parti Colorado est aussi palpable au Sénat, où avec 43% des voix, 23% au centre-gauche, il disposera de la majorité absolue. Passé par le Fonds monétaire international, le FMI, Santiago Peña s'est affirmé pendant la campagne en phase avec la société conservatrice du Paraguay, à 90% catholique, un parti entaché par la corruption. Le Paraguay est au 137e rang sur 180 dans le classement de la perception de la corruption de l'ONG Transparency International.
Oui, et nous allons faire aussi un petit tour.
Un petit rappel d'histoire, un peu d'histoire.
Oui, sur l'histoire du Paraguay.
Oui, le dictateur d'Alfredo Stroessner.
Oui.
En 1954, le général Stroessner renverse le président Federico Chavez grâce à l'appui inconditionnel du Parti Colorado. Stroessner restera à la tête du pays jusqu'en 1989, se faisant réélire 8 fois. Ce fils d'immigrés bavarois ne cultivait pas le style autoritaire et caricatural des caudillos. Il préférait jouer sur ses qualités personnelles de meneur d'hommes et travailleur infatigable. Il bâtit son pouvoir à la fois sur la corruption à grande échelle des chefs de l'armée, qui se constituèrent d'importants patrimoines fonciers, sur la contrebande massive, sur la spéculation immobilière et sur le trafic de drogue. Stroessner protégea plusieurs criminels de guerre, Mengele, Bormann, tandis qu'à Asunción prospéraient des banques qui géraient l'argent sale. Mais l'économie rurale restait archaïque dans l'agriculture de subsistance et dans les grands domaines tournés vers l'exportation. Asunción, en 1980, le Paraguay appartient au général Stroessner. Tous les ans, celui-ci confirme son pouvoir par des élections. Ce vieux collègue de Franco suspend alors pour 24 heures l'éternel état de siège. Stroessner se croit invulnérable car il n'aime personne. L'État, c'est lui. Tous les soirs, il appelle le président de la Banque centrale. « Combien avons-nous fait aujourd'hui ?»
Oui, c'est très curieux. C'est extraordinaire, anecdotique. Je l'ai vu venir au Chili pour visiter un autre dictateur, Pinochet, à la cour d'appel du Chili. Je l'ai vu passer de loin. Je n'ai pas voulu m'approcher. Voilà, donc... mais récemment qu'il y a la musique. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son des radios libres en Périgord. Et nous allons vous parler, comme c'était annoncé au départ, de la Colombie. Et ensuite, on va parler des névicites en Amérique latine, n'est-ce pas, Béatrix?
Ben oui, 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 oui.
En Colombie, donc.
Importante. Alors, donc, la Colombie en butte aux partis politiques traditionnels, s'opposant à plusieurs de ses projets de loi. Le président colombien Gustavo Petro a remplacé fin avril 7 ministres de son gouvernement de coalition. Son programme de gauche, sur lequel il a été élu en 2022, prévoyait une feuille de route pour amener le changement en faveur duquel ont voté des millions de Colombiens, indique le communiqué du gouvernement. Gustavo Petro tente avec difficulté de faire adopter plusieurs projets de loi, en particulier ces dernières semaines, une réforme contestée du système de santé qui a mis à mal sa coalition gouvernementale. Le premier exécutif formé par le président reposait sur une coalition ouverte au centre, à la droite modérée et au monde universitaire. Les portefeuilles défense, intérieur, finance avaient ainsi été confiés à des personnalités non issues de l'alliance de gauche ayant porté le président au pouvoir. Outre l'échec de plusieurs de ses projets de loi au Congrès, Gustavo Petro rencontre de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de son plan de paix total pour mettre fin aux conflits armés dans le pays, où sévissent toujours de nombreux groupes armés.
Mais je crois qu'il y a une dernière fois, là.
Oui, en dernière minute, les gangs de Medellín prêts à négocier un accord de paix avec le gouvernement.
Oui, c'est vrai que Gustavo Petro, en président de gauche, rencontre beaucoup de difficultés vis-à-vis de l'opposition de droite. Mais je pense qu'il va continuer à avancer, espérons-le. Mais nous allons parler aussi d'une visite, n'est-ce pas, en Amérique latine, de quelqu'un de...
De la Russie.
Voilà.
À la fin du mois d'avril dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu au Brésil, au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua. Avec la tournée du ministre russe dans certains pays du continent latino-américain, la Russie tente-t-elle de consolider son alliance anti-occidentale? L'objectif pour Sergueï Lavrov est clair. Il s'agit de renforcer l'influence de Moscou dans cette partie du monde. Il renoue ainsi avec la politique extérieure de l'URSS, qui avait développé des liens étroits et idéologiques avec des pays comme Cuba, le Nicaragua et plus tard le Venezuela. Des liens qui n'ont jamais été rompus, y compris sur le plan des échanges commerciaux. Sergueï Lavrov va donc parler économie avec ses États, mais surtout resserrer les liens politiques avec ses alliés traditionnels. Il y a eu le déplacement au Brésil important pour Moscou à plusieurs titres. Le Brésil, c'est bien sûr la principale économie du continent, membre des BRICS comme la Russie. Depuis l'élection de Lula, le Kremlin sait qu'il dispose d'un allié potentiel plus conciliant. Si le Brésil n'est pas un affidé de la Russie, son positionnement intéresse fortement le régime de Vladimir Poutine.
Voilà, c'est un peu comme la Chine qui veut aussi s'installer
aussi
un peu partout, la Russie, la Chine. En fait, c'est presque des empires maintenant, n'est-ce pas? Ou presque.
Oui,
l'empire russe, l'empire chinois. Et avant, c'était l'empire états-unien. Mais je vais vous livrer des infos en bref. Le Chili veut nationaliser ses mines de lithium. Le président du Chili, Gabriel Boric, a annoncé vouloir nationaliser une partie de la production de lithium et la décision doit être encore approuvée par le Congrès. Le lithium est un minéral indispensable à la construction des batteries d'appareils électriques. Voilà, donc, on peut l'approfondir la semaine prochaine. Et comme vient de dire Béatrix, Gustavo Petro est en difficulté face au Congrès. Et il a appelé ses soutiens à défiler dans les rues pour l'appuyer. Voilà. Et n'en parlons pas de Haïti parce que c'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Voilà. Donc, c'est quelques petites infos. Et Ça serait tout pour l'instant. Nous allons écouter de la musique.
Pasa en casa.
Moliendo Café, musique de la Colombie. Je vous livre une dernière information qui vient de nous arriver au Brésil. Perquisition au domicile de Jair Bolsonaro, soupçonné d'avoir falsifié des certificats de vaccins contre le Covid-19. La police brésilienne, qui enquête déjà sur le rôle de l'ancien président dans le sommet du 8 janvier à Brasilia, et sur un don de bijoux par l'Arabie saoudite, s'inquiète désormais d'un réseau criminel impliquant ses proches et fournissant des faux passes vaccinaux. Voilà donc, Jair Bolsonaro a bien se faire des soucis. Et n'oublions pas que c'était un ex-président du Brésil d'extrême droite. Touche à sa fin, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré des infos et merci à Simon qui est à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.